Si, si,
j'arrive. Je vais te faire le théâtre, tout de suite. C'est la question des licences, voyez. Alors, il y a toujours des difficultés pour ceux qui passent des licences. Bon, on va continuer un peu l'effort qu'on avait fait hier pour terminer ce point de vue terminé. Terminer cette division de l'être en actes et en puissance. Et alors, on avait posé la question sur, vous savez, dans les modalités de l'acte, y a-t-il lieu de distinguer energeia et entelekeia ? Alors, c'est la fameuse chose que faut-il saisir ces différents modes de l'acte ? Je reviens là-dessus, hein. Et puis après, nous reprenons le principe de causalité. Je reviens sur cette question, parce qu'on m'a fait une petite observation à la fin du cours, et je voudrais essayer de préciser avec vous ce que représentent ces cinq modalités. C'est important, et c'est pas très commode, évidemment, à bien saisir. Deux, le point de vue de la bonté. C'est l'ordre que j'ai mis dans le livre. Quatre, la vérité. Cinq, les opérations vitales. Et quatre, les opérations vitales. Cinq, le mouvement. Saisir ceci comme l'être en acte et parallèlement l'être en puissance. Il est évident que lorsque je suis en face de cette division de ce qui est, vu du point de vue de l'être, sous le point de vue de l'interrogation de ce que représente la fin, l'être est divisé de cette manière-là. Et selon le langage que prend Aristote, il faut essayer de comprendre d'abord ce que dit Aristote, puis après essayer de comprendre si on peut préciser d'autres aspects. Donc selon le langage d'Aristote, nous sommes ici vraiment dans une division qui est de l'ordre du principe. Télos, c'est la fin, principe. Et donc, energeia, et non pas entelekeia. Je crois qu'on peut dire cela. Quand Aristote parle du mouvement, il parle souvent de entelekeia. Ça, c'est sûr. Mais il faut se demander si, comme toujours, les réalités peuvent être considérées de deux manières différentes. Je peux regarder le mouvement en tant qu'il actue le point de vue du corps, c'est-à-dire le corps mobile. Je peux le regarder dans la lumière de l'être en acte et en puissance, comme je peux le regarder tel qu'il existe. Mais c'est deux considérations différentes. Si je le regarde dans la lumière de l'être en acte et de l'être en puissance, je suis donc en face d'un mode particulier de l'être en acte et de l'être en puissance. Alors, à ce moment-là, faisons attention, la question entelekeia et energeia peut-être ne joue plus tout à fait de la même manière, parce que je suis en face ici de energeia. Parce que c'est une division de l'être. Je peux donc regarder le mouvement en quelque sorte de deux manières différentes. Je peux le regarder dans la lumière de l'être en acte comme un mode particulier de l'être en acte, comme une certaine finalité, la finalité du corps mobile. Il est bien évident que le corps mobile est finalisé par l'acte, par le mouvement, qui est son acte. Alors à ce moment-là, c'est un mode de l'energeia. Je peux le considérer tel qu'il existe, dans son pos, sa manière d'exister, alors je dirais entelekeia. Et c'est ce qui explique peut-être, parce qu'on n'a pas assez regardé les textes d'Aristote là-dessus, de cette manière-là, ce qui explique peut-être que de temps en temps, Aristote emploie entelekeia et energeia. Et on n'a peut-être pas fait assez attention à ces deux manières différentes de regarder. J'espère que vous voyez. Je reprends. Parce que je voudrais que vous compreniez cela. Bon, hier, on m'a posé la question. J'ai réfléchi depuis. Parce qu'il faut bien croire qu'on réfléchit aux questions posées, n'est-ce pas ? Alors, j'ai essayé d'entrer le plus possible dans l'objection. Il faut toujours faire ça. Il faut entrer dans l'objection. Il faut donc être conciliant par rapport à l'objection. Puis se dire après, non, ça ne va pas tout à fait. Alors, il faut comprendre. L'objection considère à dire, et c'est pour ça que je suis entré dedans, en disant que c'est d'une certaine manière l'entelekeia. Le point de vue de l'opération vitale, c'est entelekeia. Et le point de vue du mouvement, c'est entelekeia. On peut dire ça, c'est vrai, on peut le dire. Mais, alors à ce moment-là, je ne suis plus en face des différents modes de l'être en acte et de l'être en puissance. Si je suis en face des modes de l'être en acte et de l'être en puissance, je suis encore en face du principe et de la fin, qui a diverses modalités. Mais je suis donc en face de la division de l'être en acte et en puissance. Et je ne suis pas en face d'un jugement d'existence à l'égard d'une réalité qui existe. Vous voyez ? La même réalité, le mouvement, peut être regardé comme une réalité qui existe, une manière d'être. On existe en mouvement, c'est une manière d'être. On existe en opérant certaines opérations vitales. On existe tout simplement dans son existence, manière d'exister. Je suis donc en face du pose. Alors là, entelekeia. Si au contraire, je regarde la division de l'être en acte et d'être en puissance, où je suis en face de l'énergeia, le principe et la fin, je peux voir les différents modes. Vous voyez, il y aurait manière d'exister et les modes de l'acte. Alors distinguez bien les deux. Manière d'exister, c'est l'aspect concret. Entelekeia. Et les modes de l'acte, je ne dis pas que ce n'est plus directement la manière d'exister, c'est dans la lumière de la division de l'être en acte et de l'être en puissance, où j'essaie de saisir ces divers modes de la fin. La fin se présente à moi selon 5 modes particuliers. Et donc c'est vraiment encore l'analyse. Et donc c'est energeia et pas entelekeia. Vous voyez ? De sorte que je peux regarder l'essai dans deux lumières différentes. Et c'est très vrai, je vous ai déjà dit, quand j'analyse dans saint Thomas l'essai, je vois qu'il y a 5 significations différentes. Donc dedans j'en choisis 2. C'est facile. J'en choisis que 2, je laisse tomber les autres. Il y a 2 manières de regarder l'essai. Il y a la manière de regarder l'essai comme acte d'être, il y a manière de regarder l'essai comme la forme la plus parfaite sur laquelle la réalité existe. Oui. Donc il y a le pons et le tiesti. Quand je regarde le mode particulier de l'acte, c'est le tiesti. Et quand je regarde l'entelekeia, c'est le pons. Manière d'exister. Alors, réfléchissez, parce que vous ne comprendrez que si vous réfléchissez. J'ai réfléchi, je ne dis pas pendant toute la journée d'hier, hein, non, mais de temps en temps, devant l'objection. J'ai essayé d'entrer parce qu'elle est intéressante comme objection, c'est intéressant. Alors, il faut essayer d'entrer dedans. Et puis alors, on voit que ça ne colle pas, parce qu'au fond, ici, je suis en face des modes particuliers de l'acte, les modes de l'acte. Donc je suis vraiment devant des divisions que l'intelligence opère. Dans la réalité, l'essai est toujours l'essai de telle réalité. Entelekeia. Mais mon intelligence peut considérer l'essai en tant qu'il actue l'essence. Et c'est en tant que où je suis devant le mode particulier de l'acte en regardant l'essai. peux faire la même chose pour l'opération vitale. Je peux faire la même chose pour le mouvement. Oui, c'est pour ça que je dis, il y a deux considérations, ou le pulse, ou les différentes manières de regarder le TST. Alors j'ai les modes particuliers de l'acte. Et quand je parle des modes particuliers de l'acte, je suis au niveau du TST. Tandis que quand je parle de la manière particulière d'exister, je suis en face d'une manière particulière d'exister. Alors, il faudrait regarder si dans saint Thomas, ce double langage existe. Vous avez, je crois, un texte, hein, vous, je ne l'ai pas eu. Quoi ? Oui. Est-ce que vous avez un texte ? Ah, bon. Est-ce que ça m'intéresserait beaucoup ? Vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Je dis ça, je soulève le problème, hein, au point de vue du langage. Donc nous avons mode, modus, le modus, et modalitas.
Oui, modalitas.
Bon, alors, si je prends au point de vue simplement du langage, hein, c'est toujours intéressant, première enquête, est-ce que c'est blanc et blancheur ? Ça m'amuse, hein, de regarder ça. Oui, parce qu'il faut de temps en temps appliquer ces choses-là. Est-ce que modalitas, c'est ce par quoi le mode est mode ? Eh bien, si je prends ça, je prends l'aspect concret modus et l'aspect abstrait modalitas. Eh bien, voyez que là, si je fais ça, je n'y comprends plus rien du tout. Ce qui montre très bien qu'il faut faire grande attention aux expressions et à l'usage des mots, comme dit saint Thomas. Je ne peux jamais me référer toujours uniquement à l'étymologie et uniquement à l'aspect concret et abstrait. Ça, c'est un passe-partout. Très intéressant. Mais faisons attention. Dans certains cas, mot douce, dans le langage de saint Thomas, mot douce se réfère à la mesure. Toujours. Et exprime donc quelque chose qui module la mesure. Qui nous donne des modulations de la mesure, qui nous donne des modes particuliers. Ici, la mesure, c'est la fin, c'est l'acte, qui nous donne des modalités particulières sous lesquelles je peux regarder l'acte. Tandis que modalitas, selon ce qu'on me dit, parce que je n'ai pas de texte directement, modalitas regarde la manière d'exister. Et alors, ce serait entelekeia, ce serait le pos. La modalitas regarde le pos, tandis que le modus regarde le tiesti et module le tiesti. Oui. Oui, alors je serai en face des différentes manières d'exister de l'essai. Et donc là, entelekeia, dans le langage grec. Vous voyez ? Et saint Thomas aurait transposé ça en latin, modalitas. Donc, ce qui est important, parce qu'indépendamment, si vous voulez, du langage, c'est toujours intéressant quand même. Ce qui est important, c'est de voir la double vision que j'ai de ces modes particuliers de l'acte et que je regarde comme des modes du tiesti de la fin ou leur manière concrète d'exister. Quand je les regarde dans leur manière concrète d'exister, vous comprenez, l'essai implique la puissance. Tandis que quand je les regarde du côté du tiesti, l'essai est distinct de la puissance. Dans la modalitas, selon le langage d'ici, dans la modalitas ou l'entelekeia, l'opération vitale est liée à la puissance d'où il provient. C'est la manière d'exister. Tandis que dans l'analyse, que je fais ici l'être en puissance, l'opération vitale se distingue de la puissance. Vous voyez, on est à un degré d'abstraction qui va plus loin, parce que le TST est le degré d'abstraction le plus profond, tandis que le pose, on se repose. On se repose sur la réalité concrète. Donc on est devant quelque chose que nous pouvons saisir immédiatement, que nous pouvons saisir concrètement, la manière d'exister. Vous voyez ? Alors je peux le faire pour tous. Alors, je crois que ça nous rend, permet de répondre à la question posée et permet de bien voir ce que représentent ces modes particuliers de l'acte, qui sont dans la ligne de la découverte de l'être en acte et de l'être en puissance, et de voir ensuite leur manière particulière d'exister. Suffisant ? Comme ça, j'espère. Oui. Non, non. Dans le pose du bien, ah, bien moins d'intelligéa. Ah oui, 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 c'est ce que je disais hier, par exemple. Mais alors, faisons attention. Hein. Je prends la bonté dans la réaliser. Quand je dis, cette personne est bonne. Là, je suis en face de sa manière d'exister. Alors là, je suis intelligéa. Mais au fond, on l'emploie très peu. Vous voyez ? Quand je dis Dieu est la souveraine bonté, je suis en face de l'intellekeia, la manière d'exister. Ce n'est plus le bon. Tandis que quand je dis le bon, le bien et ce que tout s'attire, je suis dans le tiesti. Alors, au fond, c'est pour la bonté, c'est la même chose. Vous voyez, hier, j'avais essayé d'entrer dans l'objection, et alors en entrant dans l'objection, au bout d'un certain temps, on est soi-même pris par l'objection. Ça, c'est forcé. C'est pour ça que je reviens en disant attention, attention. Nous sommes dans la ligne de l'énergéia. Et chaque fois que je regarde ça, je peux maintenant transposer ces modalités de l'art dans les manières d'exister. Manière d'exister de l'essai, manière d'exister de la bonté, manière d'exister de la vérité, et ainsi de suite. Alors je serai dans l'énergéia. Alors ça me permet peut-être, vous voyez, c'est ça qui serait intéressant, ça me permet peut-être d'avoir la clé de la véritable signification de l'énergéia, l'intellekeia. Parce que quand on regarde dans Aristote, c'est pas très commode. Autrement dit, il faut avoir compris Aristote pour le comprendre. Pour comprendre des textes, comme souvent. L'intelligence des textes présuppose la compréhension de la chose. Et alors, je crois qu'ici, nous saisissons bien les modes particuliers de l'acte et les manières particulières dont ces actes se trouvent réalisés. Quand ces actes se trouvent réalisés, je prends la bonté, par exemple. Je dis, pour Dieu, c'est évidemment un cas tout à fait particulier. Dieu est souverainement bon. Je ne suis pas en face d'un des modes de l'acte. Je suis devant une manière d'exister. Il existe de cette manière. C'est le commodo de la manière dont Dieu existe. Tandis que quand je dirais la personne humaine est bonne, mais elle n'est pas substantiellement bonne. Sa bonté n'est parfaite que lorsqu'elle atteint sa fin. Bon, c'est la bonté au niveau de Entelekeia. Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas le mode particulier du bien. Vous voyez ? Oui. Oui, mais la seule différence, c'est que j'éclaire ces inductions, alors à partir de là, vous voyez, ce n'est plus la première description. Je peux saisir l'essai de plusieurs manières, je l'ai dit. Quand je dis ceci est, ce n'est ni l'énergéia, l'in, ni l'entelekeia. C'est ceci est, c'est la constatation d'un fait particulier, d'une réalité qui existe. Je peux découvrir ensuite l'essai comme mode de l'acte, et je peux découvrir après les manières particulières dont telle ou telle réalité existe. J'existe à la manière d'un homme, le to anthropo einein, cette formule d'Aristote qui est si particulière, et que Tricot traduit très mal en disant l'acuité. C'est juste inverse. Oui, il s'est mis là le doigt dans l'œil parce qu'il n'a pas vu. Alors il dit le to anthropo einai, c'est l'acuité de l'homme, mais c'est pas du tout. C'est la manière particulière dont l'exister se trouve dans l'homme. Alors là, je suis vraiment en face du pos. Vous voyez ? Il y a une formule particulière qu'Aristote a forgée quand il dit l'essai du blanc, la manière particulière dont le blanc existe. voyez ? Alors c'est pour ça que quand je suis au niveau des expériences, je suis au niveau du jugement d'existence qui constate telle ou telle expérience. Donc c'est le point de départ de l'induction. Quand je suis au terme de l'induction, je suis en face de l'énergeia, en face du principe. Et je peux à partir de là voir les modes particuliers du principe. Non, pas encore. Pas encore. L'entelekeia est quelque chose de plus parfait, comme, comme saisie. C'est la manière particulière d'exister. Vous voyez ? Quand je dis cette réalité est mue, ben, je ne sais pas encore entelekeia. Entelekeia est déjà quelque chose de très, très, très précis. Ce n'est pas du tout la constatation brutale du tohoti. Oui ? Non, je regarde dans le livre de métaphysique. Je la regarde ici comme une modalité de l'acte.
Comme un mode.
Oui, un mode de l'acte. Comme un mode, oui, pas modalité. Comme un mode de l'acte.
Donc vous la regardez bien, la volonté au niveau de l'homme.
Oui, oui, d'accord. Mais ça ne fait rien, ça reste toujours. Parce que quand vous regardez dans l'éthique, par exemple, qu'est-ce qui finalise ? Le bien est ce qui attire tout. Et quand vous dites le bien, c'est ce qui attire tout, c'est ceci, c'est un mode particulier de l'acte. Et quand vous regardez la manière dont l'homme est bon, vous êtes entelekeia. Oui ? Exactement. La ratio boni, dans le langage de saint Thomas, la ratio boni exprime l'acte particulier du bien. Et vous regardez la manière dont Dieu est bon, la manière dont l'homme est bon. Alors, entelekeia. Oui ? C'est difficile parce que ce sont des niveaux différents où nous saisissons la même réalité. C'est ça le côté très subtil de l'analogie. Et ça, c'est le côté très subtil de l'intelligence. Il y a des niveaux différents. Vous voyez, je reprends pour laisser parce que c'est particulièrement intéressant. Quand je dis « ceci est », quand je dis « laisser acte d'être », Actus et Sandi, acte d'être. Quand je dis tel essai, l'ipsum esse subsistens, ou tout simplement l'essai de l'homme, l'exister de l'homme. Mais j'ai trois niveaux différents. Constatation, tohoti, Aristote. L'acte d'être, alors mode de l'acte, manière d'exister. L'ange existe autrement que moi. Et j'existe d'une autre manière que l'ange. Et nous existons de la même manière. Nous existons à l'intérieur de notre nature humaine. C'est notre nature humaine qui existe en nous. Donc nous sommes devant une manière d'exister. Vous voyez, ce sont des niveaux différents. C'est ça qu'il faut saisir. C'est pas si commode que ça. Et si on ne voit pas ces niveaux différents, alors ça fait le cocktail métaphysique, hein, effrayant. Vous n'arrivez plus du tout à rien comprendre du tout. Et au fond, l'intelligence de tout cela, c'est la distinction de l'être en acte et l'être en puissance. Une fois que j'ai compris ça, je comprends tout le reste. Mais il faut aller jusque-là. Mais en effet, que la distinction du modus et de la modalitas présuppose la connaissance donc du principe. C'est ça. S'il n'y avait pas, vous voyez, je reprends, s'il n'y avait pas la connaissance de la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance comme fin et comme principe, je ne pourrais pas faire la distinction entre modus et modalitas. Si je fais la distinction de modus et modalitas, c'est-à-dire du mode et de la manière particulière d'exister, eh bien, ça prouve que j'ai été jusque-là, le sommet, l'Himalaya de la métaphysique. Évidemment, ça fait des chutes. Hein. Beaucoup veulent aller jusque-là et puis s'arrêtent avant. Beaucoup. Il y a des avalanches métaphysiques. Et des avalanches métaphysiques, c'est quand on reste dans le pos et qu'on n'arrive pas à saisir le tiesti. Alors on est complètement dans une situation limite métaphysique, c'est qu'on est pris par le poids du pos. Et le poids du pos vous empêche de saisir le tiesti, ce qui arrive très souvent. Bon. Vous avez un peu compris ? Vous aurez du temps à y réfléchir. Maintenant, voyons le dernier point, ce que je vous disais hier, ce que je crois quand même intéressant à souligner. Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous parlons d'un principe de causalité ? C'est quand même important, parce que de fait, c'est entré dans le langage. Alors dire saint Thomas n'emploie jamais le principe de causalité. Il n'explicite pas. C'est vrai, mais la réalité y est. Et c'est ce que saint Thomas dit à propos de la personne quand il parle d'Aristote. Il dit le mot n'y est pas, mais la réalité y est. Or, la philosophie regarde la réalité et ne regarde pas les mots. Donc, dire que saint Thomas n'emploie pas le principe de causalité, et par le fait même, si on est vraiment thomiste, on n'emploie pas le principe de causalité, mais c'est une erreur. Ça prouve qu'on n'a pas compris ce que c'est que le principe de causalité et qu'on n'a pas compris ce que c'était que la causalité chez saint Thomas. Alors il s'agit de comprendre ça, parce que c'est important. Le langage évolue. Notre langage n'est pas celui de saint Thomas. Mod modalitas. Hein. Je n'emploierai pas ça aujourd'hui. Je dirais manière d'exister, pos et tiesti. C'est plus clair, vous voyez, en grec. C'est toujours plus clair. C'est ça qui est toujours... Parce qu'on revient à l'origine. Et c'est très vrai qu'il y a des tas de choses en saint Thomas qu'on ne peut comprendre que si on revient à l'origine. C'est-à-dire Aristote, si on retrouve le tiesti et le pos. Vous voyez, et c'est là où la scolastique décadente, hein, à partir de Occam, n'a plus saisi. Parce qu'à partir de Occam, la distinction du pose et du tiesti ne s'est plus faite. Et c'est ça qui est terrible. Parce que dès que vous êtes en logique, vous n'avez plus la distinction. Si vous confondez la logique et la métaphysique, vous n'avez plus la distinction entre le tiesti et le pose. Or, c'est cette distinction du tiesti et du pose qui nous permet de comprendre ça, hein. Alors c'est intéressant de voir, et ça ce serait très intéressant à justifier dans tous les textes d'Aristote, parce que quand on a regardé ordinairement, les livres de Montavon, ou même de l'orité par rapport à Entelecheia et Energeia, ils ne l'ont pas vu dans cette lumière que je vous dis ici. Ils ont pris les textes, ils les ont regardés, mais ils n'ont pas essayé de les regarder dans la lumière même de l'être en acte et d'être en puissance. Ce qui est de ma faute, parce que j'aurais dû leur dire. Oui, parce que quand on dirige une thèse, on doit aider ceux qui la regardent. Mais vous voyez, ce sont des choses qu'on ne saisit que progressivement. Le texte d'Aristote est d'une telle densité et d'une telle intelligence, comme les textes de saint Thomas, du reste. Autrement, parce que saint Thomas est un théologien, Aristote est un philosophe, mais des deux côtés, les textes sont d'une intelligence très grande. Et nous avons de la peine à saisir cette pénétration de l'un et de l'autre. Ça, il faut le reconnaître. C'est pour ça qu'on porte si facilement des jugements sur les uns et les autres, parce que c'est facile de critiquer des gens qui nous dépassent. Il faudrait se mettre longuement à leur école pour découvrir ce qu'ils disent, avant de les juger. Et puis là, après, on peut juger. Il y a telle ou telle petite confusion qui s'est faite. Alors, principe de causalité. Essayez de comprendre ce que ça veut dire pour vous, le principe de causalité. Il faudrait regarder la définition de Kant. La causalité. Il faut toujours revenir à Kant, un grand tournant. Puis de Kant, on revient à Descartes, de Descartes, on vient à Occam. Alors à ce moment-là, vous régressez. Je ne sais pas si Kant est plus mauvais que Descartes ou si Occam est plus mauvais. Vous savez, le plus et le moins dans l'ordre du mal et dans l'ordre de l'erreur, comme dit Aristote, n'est-ce pas ? Alors celui qui est plus en puissance et celui qui est moins en puissance. Ce serait amusant comme régression de voir ça. Mais s'il y a une régression possible à faire ça, le principe de causalité. Le principe de causalité à partir de Occam... C'est tout simplement saisir le lien de nécessité entre ce qui vient après et ce qui vient avant. Un lien de nécessité. Le principe de causalité est fixé depuis Occam à la cause efficiente, à la causalité efficiente. Et de plus en plus, ce principe de causalité, pour arriver jusqu'à la position de Kant, va se formaliser dans cet ordre de ce qui est antérieur et de ce qui est postérieur. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ça, parce que je crois que ça nous fait saisir ce qui, dans notre intelligence, est si difficile à bien comprendre. Si je regarde donc le principe de causalité dans une position occamienne, dans une position cartésienne, dans une position kantienne, qu'est-ce que je vois? Le principe de causalité, c'est tout simplement l'ordre entre l'antécédent et le conséquent. Un ordre de nécessité. Si le conséquent, et vous voyez, ça s'exprime toujours par mode d'hypothèse. Donc ça s'exprime selon une logique. Si ce conséquent est posé et existe, il faut nécessairement que cet antécédent soit posé. C'est ça le principe de causalité. Vous saisissez donc un ordre nécessaire. Vous ne précisez pas plus. Vous ne précisez pas plus. De fait, c'est saisi selon la causalité efficiente. Mais ce n'est pas la causalité efficiente qui est exprimée, c'est le résultat de la causalité efficiente. Et à partir de là, on a saisi le principe de causalité. Je comprends la réaction de Gilson. Parce que principe de causalité, pour la plupart, est conçu de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il dit, saint Thomas n'a jamais employé le principe de causalité. C'est vrai, il n'a jamais employé le principe de causalité à la manière d'Occam, à la manière de Descartes, à la manière de Kant. Très vrai. Mais ça ne veut pas dire que le principe de causalité n'existe pas chez saint Thomas. Vous voyez, c'est intéressant, ça c'est la critique de l'historien qui, forcément, c'est propre de l'historien, est très attentif aux expressions. Mais ça peut être un danger. Un bon historien de la pensée doit dépasser les expressions. S'il reste uniquement lié aux expressions, il donne une histoire au niveau positiviste, c'est tout. Et il peut commettre de très très graves erreurs, parce qu'il peut opposer. Mais c'est très vrai que le principe de causalité est posé de cette manière, vous voyez, d'une manière, j'allais dire, logique. Alors, le principe de causalité vu du point de vue logique, c'est ça. Si telle réalité existe, nécessairement telle autre existe. Et vous saisissez un lien de nécessité entre les deux. Et ce principe de causalité au point de vue logique a été le point de vue antérieur et ce qui est conséquent dépendant de l'antériorité. Oui, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, rappelons-nous ce que nous avons vu dans la métaphysique de l'être en acte et l'être en puissance. Nous avons vu l'antériorité de l'acte et l'aspect postérieur. Vous voyez, on retrouve antérieur et conséquent. Ce qui est antérieur et ce qui est postérieur. On ne dit pas conséquent, on dit postérieur. Ce qui vient après, ce qui dépend de. La puissance dépend de l'acte, est totalement dépendante de l'acte. Alors que l'acte en lui-même, il n'est pas dépendant de la puissance. Vous voyez, dans le langage, il y a quelque chose de semblable, antérieur et conséquent. Le conséquent dépend de l'antérieur. Ici, vous avez l'antériorité et la postériorité. Quelle différence y a-t-il comme langage entre les deux? C'est intéressant à souligner ça. Quelle différence y a-t-il comme langage entre les deux? C'est que ici, je saisis un ordre d'exercice. C'est pour ça que je dis que je suis au niveau de la cause efficiente. Et dans cet exercice, je saisis un ordre de nécessité. Tandis qu'au contraire, quand je regarde antériorité, postériorité, je qualifie la relation qui existe entre l'être en acte et l'être en puissance. Je qualifie cette relation. Je qualifie l'ordre qui existe entre les deux. Je ne suis pas du tout au niveau de l'exercice. Je suis dans un ordre d'analyse. C'est tout à fait autre chose. Je suis dans un ordre d'analyse. Dans un ordre d'analyse qui peut très bien regarder l'acte, qui peut regarder la substance. L'être en substance est antérieur à l'être, à ce qui est à l'être qualitatif, à la qualité, à l'accident. Antériorité, postériorité. Vous voyez comment, hein? C'est très curieux, ça, c'est très intéressant à voir la différence de la transposition au niveau de l'exercice d'une loi. Là, c'est la loi. Au niveau de l'exercice. Ici, je suis dans l'analyse philosophique. Antériorité, postériorité. Cette antériorité a lieu dans des points de vue très différents, puisqu'elle peut avoir lieu au niveau de l'intelligibilité, elle peut avoir lieu au niveau de la perfection, elle peut avoir lieu au niveau du devenir. Donc elle est beaucoup plus vaste. Elle a quelque chose de beaucoup plus ample. Bon. Je regarde donc ici, ce point de vue de l'être en acte et de l'être en puissance. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que ce qui est en puissance est toujours dépendant de ce qui est en acte. Parce qu'il est dans son être second. Tandis que ce qui est en puissance est dans son être premier. S'il est dans son être premier, il est donc principe. Et si l'autre dépend de lui, il est donc cause. Donc, l'être en acte est principe et cause de ce qui est en puissance. En disant cela, j'exprime bien le principe de causalité, mais pas du tout au niveau de la loi. Je l'exprime au niveau, tout simplement, d'une analyse métaphysique. Alors, vous allez me dire, et la grosse objection, elle est là. Attention. Qui dit principe de causalité reste. Est-ce qu'on reste, quand on parle du principe de causalité, est-ce qu'on reste au niveau de l'analyse ou est-ce que tout de suite on est au niveau de l'exercice? Vous voyez l'objection, j'espère. J'ai d'abord regardé, d'un point de vue descriptif, j'ai d'abord regardé la différence du principe de causalité tel qu'il était depuis Occam, Descartes, Kant. On exprime le principe de causalité de cette manière. Dépendance de ce qui est conséquent par rapport à quelque chose qui est antérieur. Et donc on saisit là un ordre de nécessité et un ordre de dépendance. Et je suis dans l'ordre de l'exercice. Et là je suis au niveau d'une description. J'espère que vous comprenez ça. Je reviens à Aristote et à saint Thomas. Je vois que l'être en acte, par rapport à l'être en puissance, est antérieur et que l'être en puissance est second, postérieur. Je suis dans l'ordre d'une analyse et non plus d'une description. Ce n'est plus l'aspect de l'exercice, c'est tout simplement regarder qu'est-ce que c'est le tiesti. Le tiesti. Ici, je suis dans l'ordre du pauvre. Ça, c'est bien évident. L'ordre de l'exercice. Le TST, qu'est-ce que c'est que l'acte, l'être en acte, qu'est-ce que c'est que l'être en puissance? Quel est le lien qui existe entre les deux? Donc, je suis dans l'ordre de l'analyse. Pouvons-nous passer immédiatement de l'ordre de l'analyse en disant principe de causalité? À partir de là, puis-je passer tout de suite à dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte? C'est là la difficulté. Ce qui est sûr, je vais répondre, ce qui est sûr, c'est que la distinction de l'être en acte et l'être en puissance fonde la dépendance de ce qui est en puissance à l'égard de ce qui est en acte. Ça, c'est sûr. Si je détecte une antériorité dans l'ordre de l'être par rapport à ce qui est en puissance dans l'ordre de l'être, je peux dire que nécessairement ce qui est second dépend de ce qui est premier. Ça peut être autrement. Autrement, il n'y aurait pas une véritable antériorité. il n'y avait pas une véritable postériorité. Donc je peux dire, et ça je crois en philosophie, je peux le dire d'une façon très très nette, que l'antériorité de l'acte sur l'être en puissance fonde nécessairement la dépendance de ce qui est en puissance par rapport à ce qui est en acte. Mais lorsque j'exprime cette dépendance, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Est-ce que je suis au niveau de l'exercice ? Ou est-ce que je suis encore à un niveau d'une pensée au niveau du Tiesti? Toute la question est là. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Je crois qu'en disant cela, je demeure au niveau métaphysique du Tiesti. Et j'exprime bien le principe de causalité au niveau métaphysique. Je ne suis pas au niveau de Kant, parce que je ne suis pas au niveau du Pauls. Je ne donne pas une application, je dis tout simplement, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Donc vous voyez comment il est légitime de parler du principe de causalité au niveau d'une métaphysique aristotélicienne thomiste. Comment il est légitime, il faut tout simplement comprendre qu'à ce moment-là, j'exprime l'ordre qui existe entre la puissance et l'acte. L'ordre de dépendance entre ce qui est en puissance vis-à-vis de ce qui est en acte. Et ceci se légitime par l'analyse que j'ai faite entre l'être en acte et l'être en puissance. Et que cette expression-là exprime bien une dépendance tout autre que celle qui est exprimée au niveau de Kant. Ici, je suis au niveau d'un principe de causalité. Et c'est pour ça que je vous disais hier, il faut bien comprendre que toute cause est principe. Si toute cause est principe, tout principe n'est pas cause, mais toute cause est principe. Si toute cause est principe, je peux donc parler d'un principe de causalité. C'est évident, je n'explicite que l'aspect particulier de la cause. Toute cause est capable d'engendrer un ordre. Toute cause est capable de fonder un ordre. Et fonder cet ordre, engendrer cet ordre, exprime tout simplement la dépendance de l'être en puissance à l'égard de l'être en acte. Et donc, s'exprime par le principe de causalité. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors j'explicite, là c'est évident, j'explicite quelque chose qu'Aristote a pas dit. Mais je crois que je dois le faire en face de Kant. Au portet RSSC. Il fallait que Kant existe pour pouvoir expliciter certaines choses qu'Aristote disait d'une façon virtuelle. Je suis obligé en face de Kant, en face de Descartes, en face d'expliciter le principe de causalité. Parce qu'autrement, je dirais, mais non, principe de causalité, ah, il était inventé. Mais non, pas du tout, principe de causalité n'a pas du tout été inventé par Descartes. Il existe avant. Mais il n'existe pas du tout de la même manière que Descartes le dit. Et pour bien faire comprendre qu'il existe d'une autre manière que ce que Descartes dit, je dois donc expliciter cette métaphysique de l'antériorité de l'être en acte sur la postériorité de l'être en puissance. J'espère que vous voyez. Parce que ça, c'est important pour voir du reste tout simplement ce que représente l'histoire de la pensée. On est obligé de tenir compte de Kant. On est obligé de tenir compte de Descartes. On est obligé de tenir compte d'Occam. Je n'ai pas le droit de dire, ils sont dans l'erreur, je ne m'intéresse pas. Non. Ils ont explicité certaines choses. Peut-être grâce à leur erreur.